Le calendrier nous invite à célébrer aujourd'hui le Seigneur Jésus en tant qu'il est roi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? C'est difficile de donner une appréciation précise, a priori, de ce que on veut dire quand on dit que le Seigneur est roi. En effet, d'après ce que l'on m'a dit, je ne reprends pas forcément ça à mon compte, mais rien n'est plus étranger à la mentalité suisse que l'idée même de monarchie. Mais rassurez-vous, pour moi qui suis français, eh bien, depuis fort longtemps, nous n'avons plus non plus d'exemple de roi sous les yeux. C'est nos voisins, peut-être. Dans plusieurs pays d'Europe, il y a encore un roi. Pour la plupart, ce sont des personnages fort sympathiques, mais il faut bien dire que cette référence ne nous éclaire pas du tout pour comprendre ce que signifie la royauté du Christ. Et finalement, comme toujours, le mieux pour comprendre ce que ça veut dire, c'est de se laisser éclairer par ce que la Bible elle-même nous dit. Quand on parle de roi, dans l'Israël ancien, on veut dire qu'il y a deux caractéristiques qui sont données d'ailleurs dans les lectures de ce jour. Deux caractéristiques mises en lumière qui nous disent ce que c'est qu'un roi pour la tradition d'Israël. Un roi, c'est un berger, et un roi, c'est un juge. Dans la première lecture et dans le psaume, le roi est présenté comme le berger, le bon pasteur. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette première caractéristique, on ne peut pas tout dire dans une homélie, et puis c'est une image qui ne nous pose pas trop de problèmes. C'est une image spontanément qu'on aime bien. La deuxième caractéristique, elle est évoquée dans l'Évangile, le roi est un juge, et déjà aussi à la fin de la première lecture d'ailleurs. Un des rôles du berger, c'est pas seulement de protéger les brebis, c'est aussi, comme le dit Ézéchiel, de séparer les brebis et les boucs. Mais évidemment, l'Évangile revient tout entier sur cette caractéristique du roi qui siège sur son trône et qui juge. Et j'ai remarqué assez souvent que cette image nous est plus difficile que celle du berger. Nous l'acceptons moins spontanément. Quand on demande à des chrétiens pourquoi la foi les rend heureux, pourquoi ils aiment le Seigneur, assez rarement, ils répondent « parce qu'il me jugera au dernier jour ». Pourtant, il me semble que le fait que le Seigneur soit un juge mérite bien d'entrer dans l'Évangile et d'être qualifié de bonne nouvelle. Notre réticence envers un juge peut venir tout simplement de la peur du juge. Est-ce qu'il est impartial? Est-ce qu'il est intègre? Est-ce qu'il est juste? Dans l'Évangile selon saint Matthieu, ce motif du juge revient assez régulièrement. Et l'Évangile nous le dit, nous mettre à la suite du Christ, c'est lui donner le droit de nous juger. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus qui disait « Au bout de toute liberté, il y a une sentence ». Le juge ici n'est pas du tout une réalité abstraite. Le juge évoqué dans l'Évangile, c'est quelqu'un qui nous aime et c'est quelqu'un que nous aimons. Le juge, le roi, le texte de l'Évangile des autres années pour le Christ roi nous le disent, c'est aussi quelqu'un qui a vécu nos épreuves jusqu'à la mort, jusqu'à la condamnation par les hommes. Le juge, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être jugé. Or, aimer quelqu'un, c'est admettre que mes actes ne me concernent plus, moi seul. Aimer quelqu'un, c'est, d'une certaine manière, lui donner un droit sur moi, le droit de me juger. De quelqu'un qu'on aime, on attend une parole. On n'attend ni une flatterie, ni un mot pour ne rien dire, mais de quelqu'un qu'on aime, on attend une parole de vérité. Non pas de futilité, mais de poids. Non pas de mépris, mais de soutien. De quelqu'un qu'on aime, on ne s'attend pas qu'il nous dise « Fais ce que tu veux, ça ne me concerne pas, ça te regarde. » Mais on attend effectivement une parole de jugement. On le sait, quand on a un ami, quand on est marié, quand on choisit de vivre en frère dans un couvent, on le sait aussi quand on aime le Seigneur, notre vie n'est plus seulement à nous-mêmes. Notre vie appartient à Dieu. Et quand on choisit d'avoir avec Dieu une communauté de vie, une communauté de destin, on attend sa parole, une parole sûre, une parole vraie, une parole bonne. Oui, on admet que le Seigneur peut nous juger. Il y a une autre raison pour laquelle l'existence d'un jugement de la part de Dieu est une bonne nouvelle. En effet, que le Seigneur nous juge, cela signifie que la relation qu'il a avec nous n'est pas fondée purement sur l'arbitraire. Notre destinée n'est pas tirée au dé. Elle n'est pas laissée au hasard, elle est au contraire laissée au jugement de Dieu. Notre vie, plus précisément nos actes, ont du poids. Ils ont du prix devant Dieu. Ils ont des conséquences. Dieu, qui est dans sa toute-puissance, dans son éternité, Dieu qui est dans son ciel, c'est haut, c'est loin le ciel, eh bien d'aussi loin, il s'intéresse à ce que nous faisons. Mieux encore, comme nous le rappelle l'évangile qu'on vient d'entendre, Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que nous faisons, Dieu est concerné par nos actes. Ce que nous faisons ou ne faisons pas, à l'un de ses petits qui sont à lui, c'est à lui, Dieu qui est dans son ciel, c'est à lui que nous le faisons ou que nous ne le faisons pas. C'est dire que nos actes ont un retentissement jusque dans un monde qui nous paraît bien loin de nous, le monde de Dieu. En fait, le monde de Dieu n'est pas loin de nous et il y a un lien très étroit, une vraie proximité entre notre monde et nos actes et Dieu. Nos actes ont des conséquences dans le monde éternel, dans le monde de Dieu. J'ai beaucoup aimé, c'est dû à mon passé scout, mais plusieurs ici ont été scouts, lire un auteur qui s'appelle Guy de la Rigaudie, un des fondateurs du scoutisme en France. Et quand il était chef, il écrivait à ses scouts, citation suivante, « Un acte, une fois posé, ne se reprend pas. Ses orbes et ses ressacs se prolongent en des lointains inaccessibles. Nous créons du définitif, et c'est ce prolongement dans l'éternité de nos moindres actions qui fait notre grandeur d'homme. » Voilà, il compare nos actes à un caillou qu'on jette dans un étang, et quand on jette un caillou dans l'étang, ça fait des ronds dans l'eau, et il imagine comme des ronds dans l'eau qui ne s'éteindraient jamais, qui se prolongeraient à l'infini, dans l'éternité. Nous créons du définitif et c'est ce prolongement de nos actes dans l'éternité qui fait notre grandeur d'homme. Oui, la grandeur de l'homme, c'est qu'il sait qu'il restera toujours une trace de ses actes, si ce n'est dans la mémoire des hommes, au moins dans le cœur de Dieu. Alors, il ne faut pas être écrasé par ça, parce que des fois, il y a des actes bons et des actes mauvais, hein, mais il ne faut pas oublier la force toute-puissante du pardon de Dieu. Mais ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement de se tourner vers Dieu pour obtenir une récompense. Ce dont il s'agit, c'est de vivre selon notre condition de baptisé, comme des hommes qui vivent avec le Seigneur et qui participent à l'éternité de celui-ci. Nos actes, si petits soient-ils, construisent l'histoire du monde et retentissent jusque dans le royaume. Toutes les réalités de notre monde, un jour, seront sans objet, sans existence. Mais il y a une chose qui ne passera jamais, dit saint Paul, ce qui demeurera pour l'éternité, c'est la charité. C'est-à-dire l'amour que nous déployons d'ores et déjà, aujourd'hui dans ce monde, cela ne passera jamais. Nous n'allons pas révolutionner le monde par un coup de baguette magique, mais quand même, dans tout acte de charité, même tout petit, même inaperçu aux yeux du monde, il y a quelque chose de l'éternité de l'amour de Dieu qui entre dans notre monde. Je voudrais citer deux actes qui sont sans doute passés inaperçus au moment où ils ont été faits. Un moment qui a duré quelques secondes, sans doute pas plus, dans le silence de la parole entre l'ange Gabriel et la réponse de la Sainte Vierge, quand elle a dit « oui ». Voilà un acte qu'elle a fait, passé inaperçu, et qui a changé la destinée de l'humanité. Alors vous pouvez me dire, mais la Sainte Vierge, c'est un personnage un peu hors norme quand même. Alors, j'ai pensé à quelqu'un d'autre, puisque la lecture de cet évangile, c'est aussi la lecture de l'évangile pour la fête de Saint-Martin. Il y a un moment qui aurait pu passer pour banal aux yeux de l'histoire, quand Martin, ce soldat à Amiens, a coupé son manteau pour en vêtir un pauvre. Ça ressemble beaucoup à l'évangile qu'on a entendu tout à l'heure. Eh bien, 17 siècles après, la mémoire en est toujours restée. Et quant à nous, quand nous ferons un geste de ce genre, tout autre geste que l'Esprit-Saint nous inspirera, nous ne deviendrons peut-être pas aussi célèbres que saint Martin ou que la Sainte Vierge. Mais peu importe, ce jour-là, nous aurons mis en communication notre pauvre monde et le royaume éternel du Christ.